Nous allons essayer de grandir en sagesse pendant ce semestre, de mieux prendre conscience du combat qui est le nôtre et que nous devons mener d'une manière libre et aimante et non pas subir. Je veux dire par là que de toute façon la vie est un combat. Ce combat est un combat spirituel et que nous ne pouvons d'aucune manière déserter ce combat, tout simplement parce que celui contre lequel nous combattons sera toujours là pour essayer de nous faire tomber dans ses pièges, de nous prendre dans ses filets, et que nous ne pouvons donc absolument pas jouer la politique de l'autruche. Mais bien plutôt accepter pleinement que la vie soit un combat. Si ça peut, dès le début, vous consoler, pensez que nous n'avons que cette vie pour combattre. Ça, c'est l'autre versant des choses. Nous n'avons que cette vie pour combattre pour celui que nous aimons. Et de plus, nous ne combattons pas simplement pour notre propre salut, et nous savons que ce combat, nous vivons en étant solitaires de nos frères et sœurs, et là aussi, nous n'avons que cette vie pour combattre pour eux. Et donc, il y a une chose que nous devons rejeter à tout prix, c'est de nous endormir, comme dit saint Paul. Ne nous endormons pas, dans la première épître aux Thessaloniciens, chapitre 5, au verset 6, ne nous endormons pas comme font les autres, mais restons éveillés et sobres. Nous sommes du jour, soyons sobres, revêtons la cuirasse de la foi et de la charité avec le casque de l'espérance du salut. Et nous allons essayer donc de mieux comprendre la manière dont nous pouvons revêtir la cuirasse de la foi et de la charité avec le casque de l'espérance du salut, de la manière de mener ce combat. Nous essaierons d'en montrer les grandes lois et de voir les armes, disons, essentielles que nous pouvons prendre. Mais déjà, de bien comprendre comment et pourquoi la vie sur Terre est un combat donc qu'il nous faut mener avec un engagement tout entier de nous-mêmes, j'allais dire mener avec joie, au sens où c'est l'occasion pour nous de grandir dans la foi, dans l'espérance et dans l'amour, de comprendre pourquoi la vie est un combat en revenant tout simplement au dessein originel de Dieu sur nous, et de comprendre que notre vie sur terre telle que Dieu l'a voulu, elle est dès l'origine une épreuve. Une épreuve qui est celle de notre liberté. Nous avons besoin de temps, de ce temps de vie, pour prononcer un oui entièrement libre, pour nous ouvrir entièrement à la grâce de Dieu, pour avancer sur le chemin qu'il nous propose, pour que nous puissions atteindre le but qu'il nous a fixé. Et donc ce temps sur terre est essentiellement celui à travers lequel notre liberté doit se décider, jusqu'au choix radical qu'elle fera à l'heure de notre mort. Pourquoi la réponse de notre liberté, la maturation de cette réponse est-elle nécessaire? Parce que Dieu nous a créés par amour pour une vie d'amour filial avec lui, et que l'amour ne peut pas s'imposer. L'amour ne peut naître en notre cœur que moyennant l'engagement de notre liberté, le consentement intime de notre liberté. Ce consentement intime de notre liberté devant lequel Dieu s'incline. Essayons de comprendre ce qui est la matière de cette épreuve en contemplant davantage le dessein divin qui est de nous appeler à participer à une vie divine, mais pas de n'importe quelle manière, en étant dans le Fils unique, vous avez devant vos yeux l'icône de la Trinité, en étant dans le Fils unique pour être participant d'un échange d'amour qui est celui qu'il vit éternellement avec le Père. Cet échange d'amour que le Fils vit avec le Père en étant tout entier tourné vers le Père, en étant tout pour le Père, tout face au Père, c'est-à-dire en étant totalement décentré de lui-même, pour trouver toute sa vie, toute sa joie dans cette relation au Père. Nous sommes créés pour vivre nous-mêmes d'une vie qui n'est plus centré sur nous-mêmes, mais d'une vie qui est toute tournée face au Père. Ici, je reprends les expressions de l'Épître aux Éphésiens. C'est ainsi que Dieu le Père nous a élus dans le Christ dès avant la fondation du monde pour être saints et immaculés en sa présence, dit la Bible de Jérusalem, mais littéralement en face de lui, dans l'amour. Déterminant d'avance que nous serions pour lui des fils adoptifs par Jésus-Christ. C'est le verset 4 du premier chapitre de l'Épître aux Éphésiens. Donc nous avons une vie, pour reprendre une expression chère à Benoît XVI, pour chercher Dieu au lieu de nous chercher nous-mêmes. Nous avons une vie pour regarder Dieu au lieu de nous regarder nous-mêmes. Nous avons une vie pour préférer Dieu à nous-mêmes. Nous avons une vie pour trouver notre joie dans cette relation à notre Père du Ciel, dans l'oubli total de nous-mêmes, c'est-à-dire dans une sortie éternelle de nous-mêmes. Ça m'a appelé à suivre ce chemin, donc dans un consentement à l'appel de Dieu, l'appel de Dieu qui ne cesse de nous attirer à lui, pour que nous puissions entrer dans cette vie d'amour filial, en nous laissant d'abord aimer par lui, en nous laissant d'abord toucher par lui, comme le Fils lui-même se laisse engendrer par le Père, se reçoit tout entier du Père. Si le Fils est tout tourné vers le Père et tout donné au Père, c'est parce que d'abord il se reçoit tout entier du Père. Et nous-mêmes, nous ne pouvons aimer Dieu d'un amour véritable que si nous rentrons d'abord en tant que fils adoptif, que si nous rentrons d'abord aussi dans cette réceptivité. Autrement dit, pour nous, aimer d'un amour pur, dans lequel nous pouvons nous perdre nous-mêmes pour nous retrouver en Dieu, dans le sein du Père, ça signifie d'abord suivre un chemin de réceptivité, on pourrait dire de passivité, dans lequel on se laisse d'abord engendrer, on se laisse, je dirais, pénétrer par l'amour premier de notre Père du ciel. Donc, une vie pour Dieu, une vie d'accueil, une vie de réceptivité, à l'image du Fils qui est pure filiation, pure réceptivité. Recevoir, c'est accepter de dépendre d'un autre. Rappelez-vous ce que disait la petite Thérèse, qu'il y a plus de mérite à recevoir qu'à donner. Se recevoir tout entier de l'amour du Père, c'est accepter donc de dépendre de cet autre qu'est le Père, et cela se traduit nécessairement, vous voyez, par une forme de vie qui est l'obéissance. L'abandon de nous-mêmes entre les mains de celui de qui nous recevons tout. Donc, la vie d'amour à laquelle nous sommes appelés et qui permet notre divinisation, qui est notre divinisation, elle est une vie décentrée de nous-mêmes, une vie d'oubli de nous-mêmes, une vie de réceptivité et une vie d'abandon total. Et nous comprenons que nous avons besoin de temps pour avancer sur ce chemin. De degré d'abandon, d'accueil, si je puis dire, c'est-à-dire aussi de degré d'humilité, en degré d'humilité, et aussi au niveau de l'amour lui-même, nous avons besoin de temps pour nous laisser, pour entrer dans ce mouvement d'amour dans lequel nous allons, si je puis dire, d'extase en extase, en nous laissant saisir de plus en plus par Dieu pour nous tourner toujours plus vers lui. Même s'il n'y avait pas eu le péché, nous aurions eu à vivre cette épreuve qui consiste à grandir dans ce chemin d'amour filial. Pensez que la Vierge Marie, qui n'a pas connu le péché, n'a cessé de grandir dans l'abandon, dans l'humilité, dans l'accueil. Elle a été éprouvée. Elle n'a pas dû être purifiée puisqu'il n'y avait rien en elle de contraire à l'Esprit Saint, mais elle a été éprouvée pour grandir dans ce chemin d'abandon, d'humilité, de confiance. Il se trouve que pour nous qui sommes pécheurs, se surajoute le combat contre le péché qui habite en nous. Mais de toute façon, l'épreuve de notre vie, elle est absolument nécessaire et on pourrait dire qu'elle est, pour la résumer, comme une épreuve de foi, d'espérance et de charité. Mais l'épreuve de foi, d'espérance et de charité, vous voyez, qui consiste donc en une foi d'enfant, en une espérance d'enfant, une charité d'enfant. Mais en fait, tout ça est contenu dans la foi, l'espérance et la charité. C'est la voie d'enfance qui est le secret de la sainteté et qui est la matière de l'épreuve qui nous est proposée. Devenir comme Dieu, le Fils, mais en nous faisant petits. Être divinisé, mais en suivant un chemin d'humilité. aimer comme Dieu aime, mais en nous laissant d'abord aimer par lui. Je rajoute que cette croissance dans l'esprit d'enfance, cette croissance qui est essentiellement en fait un chemin de sortie de soi dans l'humilité et la confiance, cette croissance, elle se vit non pas dans la claire vision de Dieu, mais elle se vit dans l'obscurité de la foi, au sens où nous n'avons pas l'évidence de qui est Dieu et de son amour pour nous. Mais précisément, le fait que nous n'ayons pas d'évidence, le fait que nous n'ayons pas la claire vision de ce Dieu qui nous appelle à lui, rend possible l'exercice de notre liberté, parce que si nous avions la claire vision de Dieu, notre liberté ne pourrait pas s'exercer, puisque nous serions totalement fascinés par cette beauté. Au ciel, on ne peut pas pécher. On peut se dire, mais pourquoi Dieu ne nous a-t-il pas créés en nous donnant tout de suite de le voir? Parce qu'il aurait manqué l'épreuve de notre liberté. Nous n'aurions pas eu le temps de dire oui, librement. Et nous n'aurions pas eu le temps non plus de grandir dans l'amour qui nous permettra d'être plus proche de Dieu pour l'éternité. Je veux dire que sur cette terre se forme l'amour avec lequel nous aimerons Dieu éternellement. Et notre capacité à voir Dieu dépendra de la profondeur de notre amour. Et donc, il était nécessaire que nous ayons ce temps d'épreuve. Et donc, il était nécessaire que Dieu prenne le risque de nous perdre. Parce que si nous avons la liberté de dire oui, nous avons aussi la liberté de dire non. Il est bon de se rappeler que cette épreuve que nous vivons sur terre, elle a été précédée par l'épreuve des anges. Que les anges eux-mêmes n'ont pas été créés dans la vision de Dieu. Ils n'ont pas, dès le départ, loué Dieu en le contemplant dans le ciel, mais ils ont dû eux aussi vivre dans la foi. Certes, avec une connaissance plus grande, étant donné leur qualité d'esprit pur, avec une lucidité beaucoup plus grande et une connaissance plus grande de Dieu comme créateur, mais sans encore pour autant le voir face à face. Et donc les anges ont vécu, ont cheminé, bien avant l'homme, peut-être même et probablement même, oui, avant que l'homme fût créé, c'est même sûr. Avant que l'homme fût créé, les anges ont cheminé le temps nécessaire pour se décider pour Dieu. Et nous savons que cette épreuve de la liberté des anges a été marquée par un échec, une chute, celle de Lucifer et des autres démons qui ont refusé, comme dit le catéchisme, de servir Dieu et son dessein. Refuser de servir Dieu et son dessein, ça nous rappelle que ces anges que Dieu a créés avant le monde visible, il les a créés évidemment aussi pour eux-mêmes, sont des créatures appelées à contempler Dieu éternellement, créés aussi à son image, mais il les a créés aussi en leur donnant mission de servir son dessein sur l'homme. Est-ce que tous ne sont pas des esprits chargés d'un ministère envoyé en service pour ceux qui doivent hériter? Alors ici, il y a une question débattue sur la raison du refus des anges, le refus de servir Dieu. Certains théologiens tiennent simplement que ça a été un péché d'orgueil. Et certains anges ont refusé d'obéir à leur Créateur en voulant comme rivaliser avec Dieu. Une sorte de folie liée à un orgueil luciférien, ça, c'est sûr. Mais ça n'explique pas cette parole du livre de la sagesse. C'est par la jalousie du diable que la mort est entrée dans le monde. Donc il n'y a pas qu'un péché d'orgueil, il y a un péché de jalousie. Et de quoi Lucifer pouvait-il être jaloux, si ce n'est du dessein de Dieu sur l'homme qu'il était appelé à servir? À ce moment-là, il faut admettre que les anges, que Dieu avait appelé donc à servir son dessein, ont eu comme une révélation, Dieu leur a comme, oui, révélé ce dessein d'amour sur l'homme, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, ils ont été amenés à se décider par rapport à un dessein qui devait élever l'homme au-dessus de leur condition angélique, c'est-à-dire que si nous comprenons bien le mystère du salut, Dieu s'est fait homme et non pas ange, et les anges n'ont pas cette dignité que nous avons d'être vraiment enfants de Dieu. Je me demandais ce soir qu'est-ce que ça pourrait signifier au ciel, puisque les anges comme nous, les anges qui ont fait le choix de Dieu, comme nous, contemplent le visage de Dieu face à face, mais pour l'éternité, Dieu, le Fils, est homme, et dans le mystère de son incarnation, pour l'éternité, il est uni à chacun de nous d'une manière indicible. Ça n'enlève rien à la gloire des anges, mais nous avons une place particulière dans le cœur de Dieu, si je puis dire, au sens où il a voulu s'unir à nous de la manière la plus intime en assumant notre condition. Éternellement, nous pourrons adorer un Dieu qui s'est fait l'un de nous et qui demeure l'un de nous. Et donc les anges auraient été appelés par Dieu à se décider par rapport à ce dessein, à se décider au sens d'accepter ou non de servir ce dessein, qui passe par l'incarnation du Fils. Donc accepter de servir un dessein dans lequel Dieu s'abaisse, dans lequel leur Créateur s'abaisse, pour élever à une dignité incroyable, une dignité extraordinaire, ces êtres charnels, ces êtres de nature inférieure que sont les humains. C'est par la jalousie du diable que la mort est entrée dans le monde. Ces paroles du livre de la sagesse, donc, nous laissent entendre que le démon n'a pas supporté, que Lucifer n'a pas supporté ce dessein divin, pas supporter de devoir servir ce dessein. Et il est devenu pour toujours l'ennemi du genre humain dans sa jalousie. Il est bon de comprendre aussi que les anges, dans la lucidité qu'ils avaient par rapport à qui est Dieu, lucidité qu'ils avaient par rapport à, je dirais, à la nécessité de l'obéissance, leur acte de révolte a été un acte entièrement libre, à la mesure de leur intelligence, de leur lucidité, dans lequel donc ils se sont engagés totalement, c'est-à-dire un acte irrévocable. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas de rédemption pour les anges. Eu évidemment des théologiens qui ont essayé de, si je puis dire, de voir si on ne pouvait pas espérer malgré tout un retour de ces anges déchus vers Dieu, mais l'Église s'est prononcée là-dessus en disant qu'ils ne pouvaient pas espérer un retour, parce que l'Écriture parle explicitement d'un feu éternel. Et donc, comme disait Jean-Paul II, il y a des vérités dans notre foi qui sont tristes à croire et qu'on n'accepte qu'à contre-cœur. Celle-ci en fait partie. Et donc, nous avons un ennemi qui était notre ennemi avant même que nous ayons été créés, avant même que le genre humain existe, et qui, évidemment, cherche à entraîner l'homme sur ce chemin de perdition qui est le sien, qui fait que Jésus dit de lui qu'il est homicide dès le commencement, c'est-à-dire qu'il veut à tout prix la mort. La mort de l'âme, évidemment, d'abord, mais aussi, nous le voyons, il cherche à détruire autant qu'il peut. Je vous rappelle que Hitler faisait de la sorcellerie. Il cherche à détruire autant qu'il peut, à détruire la vie. Il cherche pas simplement à détruire autant qu'il peut, à tout détruire, détruire la création. Il ne cherche pas seulement à attiser les guerres, mais il cherche à baisser l'homme, à l'humilier, à le souiller. Il aime tout ce qui est contre nature, tout ce qui nous défigure, tout ce qui pourrait nous rendre animal. Il cherche à nous dégrader le plus possible. Il est jaloux de notre dignité d'enfant de Dieu, jaloux de n'avoir été choisi par Dieu pour être élevé à cette dignité de fils, dans le fils unique, de fils adoptif. Et donc, il cherche à nous abaisser au point de chercher à nous tenter, de pactiser avec lui au lieu de faire alliance avec Dieu. De chercher à nous faire croire qu'en définitive c'est lui le plus fort et non pas Dieu. Il faut donc comprendre que à cause de ce drame premier qui nous échappe, qui est celui des anges, nous avons un adversaire qui veut à tout prix nous détourner de notre vocation divine et donc qui va chercher à nous piéger de multiples manières. Et pour comprendre les grandes lois du combat spirituel, il nous faut essayer de de comprendre ce qu'a été ce péché premier des anges. Le démon, donc, a refusé de servir Dieu, il s'est élevé contre son Créateur, d'abord dans un mouvement d'orgueil. Le péché des esprits purs, le péché des esprits purs, c'est d'abord l'orgueil. C'est cet orgueil qui est à la racine de tous les péchés. Et cet orgueil, il s'est manifesté tout de suite, donc, par un refus d'obéir. L'orgueil et la désobéissance. C'est le chemin sur lequel le démon cherche constamment à nous entraîner. Mais ici, je tiens à rajouter une chose qu'a souligné Jean-Paul II, c'est que dans ce chemin d'orgueil et d'obéissance, le démon est en même temps celui qui a refusé la vérité sur Dieu. C'est-à-dire, pour pouvoir se révolter contre son Créateur, il a refusé de reconnaître la vérité sur Dieu. Tout en la connaissant. Et donc, ici se révèle la manière dont le démon cherche à nous entraîner sur le péché sera toujours liée au mensonge. Celui qui est l'orgueilleux par excellence est en même temps le père du mensonge. Mais on peut le comprendre ça aussi en pensant que l'humilité consiste précisément à se soumettre à la vérité que Dieu nous donne de voir. L'humilité, c'est accepter de dépendre de Dieu en acceptant de dépendre de la vérité de Dieu. C'est accepter de se soumettre à sa parole. Une vérité que nous ne fabriquons pas nous-mêmes. À travers la relation à la vérité, c'est la relation aussi à... C'est la question de la réceptivité. Donc, pour le démon, le refus de la vérité sur Dieu, le refus de reconnaître sa dépendance à Dieu, le refus de reconnaître sa condition de créature, c'est un refus, donc, qui est une volonté d'autonomie sur fond d'un immense mensonge. Et le démon cherche à nous entraîner sur ce mensonge, notamment. Nous le voyons en nous amenant à vivre comme si nous étions notre propre créateur, en faisant abstraction de la vérité de Dieu, de notre condition humaine, de notre condition d'enfant de Dieu, dépendant de Dieu, nous amener à ne pas vouloir nous soumettre à cette vérité. Alors on peut relire dans cette lumière-là le récit du péché originel nous voyons comment le démon cherche à détourner l'homme du chemin par lequel il pourra être élevé jusqu'à Dieu, en utilisant donc l'arme du mensonge. Il dit à la femme, alors Dieu a dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. La femme répondit au serpent, nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin, mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas sous peine de mort. Le serpent répliqua à la femme, « Pas du tout, vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux qui connaissent le bien et le mal. » Au fond, vous voyez le démon, « Vous serez comme des dieux. » Le démon reprend le dessein divin qui peut diviniser l'homme, mais il le défigure au sens où il s'agit ici pour l'homme de devenir comme des dieux, c'est-à-dire de devenir autonome vis-à-vis de Dieu. Alors que précisément, l'homme ne peut devenir comme Dieu qu'en suivant un chemin d'humilité, de réceptivité, de dépendance. C'est proprement ça, la perversion. Et vous voyez aussi que ce « comme des dieux » est totalement centré à une séduction par laquelle l'homme cherche à s'accomplir lui-même et non pas à vivre la relation d'amour avec son Père du ciel. Je vais prendre un exemple qui va peut-être vous étonner, mais le démon pourrait très bien se servir d'un désir de sainteté, qui serait en fait un désir d'élévation spirituelle, mais qui ne serait pas vécu à l'intérieur d'une relation d'amour avec le Père du ciel. Être saint pour être grand. Être saint pour s'accomplir comme je veux, selon un idéal de moi-même. Mais ce n'est pas ça la vraie divinisation. La divinisation, notre élévation, elle est dans la relation d'amour elle-même, avec nos Pères du ciel, dans lequel nous oublions nous-mêmes, nous nous détournons de nous-mêmes pour nous tourner entièrement vers lui. Vous voyez, le démon prend l'homme là où il est appelé. Effectivement, on est appelé, on sent bien, on est appelé à une soif d'absolu en nous-mêmes, une soif de gloire, une soif de quelque chose de grand, mais le démon tourne cela en un chemin de réalisation de soi par soi. Alors qu'en réalité, ce quelque chose de grand auquel nous aspirons ne peut se trouver que dans la perte de nous-mêmes. En ne nous recherchant pas nous-mêmes, mais en recherchant Dieu. Donc le « vous serez comme des dieux », c'est « regardez-vous vous-même ». Vous serez comme des dieux, c'est vivez pour vous-même. Le vous serez comme des dieux, c'est la condition de votre bonheur, c'est de pouvoir sortir de cet état de dépendance vis-à-vis d'un Dieu qui est en réalité jaloux de vous. En plus, c'est quand même fort. Il met Dieu en situation de jaloux. Dieu sait que le jour où vos yeux s'ouvriront, vous serez comme des dieux. Ce Dieu qui nous a créés dans le Christ, c'est-à-dire dans la pensée de s'abaisser lui-même pour nous élever, il en fait un jaloux. Alors que c'est lui le jaloux. C'est pas besoin de faire de grands commentaires, c'est la perversion à l'état pur de toute façon. C'est le mensonge à l'état pur, c'est le détournement de tout. Tout est renversé avec Satan. Saint Bonaventure a cette expression de démon singe Dieu. Il singe tout, il reprend des images, il reprend des mots, il reprend des choses qui ressemblent aux choses de Dieu et il s'en sert pour réaliser l'exact contraire. Vous serez comme des dieux qui connaissent le bien et le mal. Voyez, ici, nous voyons le lieu de la réalisation de soi par soi. Vous pourrez vous accomplir vous-même, d'abord en cessant de dépendre d'un Dieu qui est aliénant, et en parvenant à cette autonomie de l'intelligence qui consiste à décider par soi-même de ce qui est bien et de ce qui est mal. Donc la vérité de Dieu, la vérité sur le bien et sur le mal, c'est vous qui allez la créer. Et comme ça, vous pourrez vous réaliser vous-même, par vous-même, comme vous voulez. La femme vit que l'arbre était bon à manger et séduisant à voir. La séduction du péché, la séduction du malin. Qu'il était cet homme désirable pour acquérir le discernement. On sent que ici commence à naître donc dans le cœur de l'homme ce désir d'acquérir la connaissance par lui-même qui lui permettra donc de mener sa vie par lui-même. Mais tout ça, c'est sur fond du doute sur la vraie bonté de Dieu. Catéchisme a eu cette belle expression, l'homme tenté par le diable a laissé mourir dans son cœur la confiance envers son Créateur. Et en abusant de sa liberté, a désobéi au commandement de Dieu. Mais il n'y aurait pas eu la désobéissance s'il n'y avait pas eu ce laisser mourir la confiance. Et se laisser mourir la confiance dans son cœur, c'est fait grâce à la puissance du mensonge. C'est ça que derrière tout péché, il y a un mensonge. D'abord, un mensonge sur Dieu. Un mensonge sur l'homme aussi. Sur le vrai sens de notre vie. On pourrait je ne vais pas insister, mettre en parallèle avec ce passage ce que dit saint Paul dans l'Épître aux Romains à propos des païens qui n'ont pas rendu à Dieu gloire et action de grâce, et qui, dans leur prétention à la sagesse, sont devenus fous. Mais retenons simplement que, à partir du moment où nous laissons mourir la confiance dans notre cœur, nous sommes tentés de penser de nous-mêmes et que nous nous perdons dans nos raisonnements, parce que nous sommes coupés de celui qui est la lumière. Et donc, à ce moment-là, nous ne pouvons que suivre un chemin de destruction de nous-mêmes. La base de tout dans notre vie spirituelle, c'est la foi, c'est la confiance. La base, cette base a été ébranlée par le tentateur, et à partir de là, nous le montrerons par la suite, tout l'équilibre de notre vie spirituelle est ébranlé. Le récit du péché originel nous rappelle que nous sommes attaqués d'abord sur la confiance. Le démon, c'est celui qui sème le doute, essentiellement. Après, il y a une avalanche, il y a un enchaînement. Nous essaierons de le comprendre plus précisément. Nous essaierons de comprendre la manière dont cette non-foi, dont ce doute qui s'est que Dieu a réussi, que le démon a réussi à insinuer dans notre cœur, le maître du soupçon, comme aimait dire Jean-Paul II, c'est de comprendre la manière dont, à partir de là, notre humanité a été abîmée tout entière. Mais je voudrais, pour terminer, vous appeler à contempler le nouvel Adam, c'est-à-dire le Christ à partir duquel peut naître une humanité nouvelle, libérée de l'emprise du démon. Si nous contemplons le nouvel Adam qui est le Christ, nous voyons qu'il a choisi de suivre pour nous et jusqu'au bout le chemin que nous avions refusé de suivre. C'est-à-dire essentiellement ce chemin d'humilité, d'obéissance, d'abandon, dans un esprit d'action de grâce. Nous sommes incapables par nous-mêmes de retrouver le chemin de l'humilité, de l'obéissance et de l'abandon. Vous voyez, je prends l'image qui me vient sur le moment, nous sommes comme un poisson qui a mordu à l'hameçon, nous sommes incapables de retirer l'hameçon. Nous avons mordu au tentateur. Mais le Christ, lui, peut, par sa croix, enlever ce lien à l'orgueil, ce lien à l'esprit d'autonomie, ce lien à cette volonté de connaître par nous-mêmes, de décider par nous-mêmes, de savoir par nous-mêmes. Le Christ nous en libère, donc, par sa croix. Et donc, le combat spirituel, pour dire les choses simplement, le combat spirituel consiste essentiellement pour nous à entrer dans la victoire du Christ, à nous réfugier à l'ombre de la croix, et à nous laisser sauver de l'emprise du prince des ténèbres par celui qui a, je dirais, écrasé la tête du serpent de la manière la plus radicale, c'est-à-dire en acceptant de vivre l'obéissance jusqu'à la mort de la croix. Je vous cite la prière d'exorcisme de Léon XIII. Il te commande le Christ, Verbe éternel de Dieu fait chair, qui, pour le salut de notre race, perdu par ta jalousie, s'est humilié et rendu obéissant jusqu'à la mort. Il te commande le signe sacré de la croix. Nous aurons l'occasion de mieux le voir par la suite, mais le démon n'a peur vraiment que d'une seule chose. C'est de cette humilité, de cette obéissance du Christ que nous sommes appelés à reproduire dans notre vie. Et donc, dans les moments de tentation, nous ne sommes pas appelés à vouloir nous battre nous-mêmes par nous-mêmes, mais nous sommes appelés à regarder Jésus et à nous laisser saisir par lui, laisser prendre par lui dans ce mystère de la croix qui est notre seule vraie victoire. Et la première condition de la victoire, c'est que nous comprenions, ce n'est pas notre victoire, mais la victoire du Christ en nous. La première manière dont nous pouvons vaincre cet esprit d'orgueil par lequel nous avons tous été contaminés, c'est de comprendre la nécessité d'être sauvés. C'est de comprendre que nous ne pourrons jamais vaincre le démon nous-mêmes. J'ai eu pendant longtemps un père spirituel qui n'a cessé de nous dire, il ne faut pas provoquer le démon. Il ne faut pas chercher à se battre avec lui. Il ne faut pas même imaginer que nous pourrions le vaincre. Il faut se réfugier dans les plaies du Christ. Il faut se réfugier dans l'humilité de la croix. Il faut se laisser attirer par cette humilité. L'attraction de la croix est plus grande que la séduction du péché et de l'orgueil. Donc nous terminons ce premier enseignement sur le combat spirituel, hein, en redisant que ce combat n'est pas le nôtre. Et en redisant que la victoire, elle est déjà acquise, nous n'avons pas à la chercher, je dirais comme quelque chose qu'il faudrait fabriquer, mais nous avons à l'accueillir en nous laissant regarder par le Christ et en mettant toute notre espérance en lui. Le démon ne peut même pas prononcer le nom de Jésus. Il dit. Il ne peut pas prononcer non plus le nom de Marie, il dit elle. Ce sont deux noms qui le brûlent. Et il suffit d'approcher un crucifix d'un possédé pour voir à quel point cette humilité du Fils de Dieu, qui non seulement s'est fait homme, s'est incarné, s'est abaissé, mais s'est abaissé jusqu'à la croix, lui est insupportable et ça. Et le met en fuite. Et donc, si nous regardons vers la croix, simplement ce simple regard sur la croix met le démon en fuite. Par contre, si nous voulons jouer au plus malin, en cherchant comment nous pourrions éviter ces pièges, en nous perdant dans toutes sortes de raisonnements, en nous lançant dans de la haute stratégie, eh bien, il sera toujours plus stratège que nous. Si on veut le piéger, si on veut jouer au plus malin avec lui, on est sûr de perdre. Si on veut se fier à notre intelligence pour se dire, eh bien maintenant je connais ces pièges et il m'aura plu, on est déjà cuit. Nos stratégies, le démon, nos combats à nous, le démon, mais vraiment, ça le fait sourire. La seule chose qui puisse le faire hurler, c'est l'humilité de Dieu. Et notre humilité, en nous laissant toucher par cette humilité. Ça veut peut-être dire aussi une chose, c'est que dans un enseignement comme celui-ci, il ne faut pas chercher à acquérir une science, je dirais, anti-démon. Mais plutôt se laisser humblement éclairer par le Christ pour mieux comprendre les appels qui sont les nôtres sur le chemin, en définitive, sur le chemin de la conversion. Et de savoir, je dirais, reconnaître toutes les fois où nous voulons encore combattre par nous-mêmes, au lieu de nous saisir de la croix du Christ. Donc c'est un cours sur le combat spirituel pour vous apprendre à ne plus combattre, mais à laisser Jésus combattre en vous et à travers vous, à le suivre simplement, au fond. Un jeune Allemand demandait au cardinal Ratzinger, qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir saint? Il lui a répondu, aime Jésus et suis-le. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas tomber dans les pièges du malin? Aimer Jésus et le suivre. Donc, à la limite, l'enseignement pourrait s'arrêter. S'arrêter là. Mais malgré tout, nous allons prendre le temps de prendre conscience d'un certain nombre de choses, d'avoir un certain nombre de repères. Mais je ne voudrais pas que ça se transforme en un savoir-faire. Et que nous restions, au contraire, toujours plus humbles au niveau de notre intelligence et nous laissant éclairer d'abord dans notre cœur par le Christ lui-même.